Kaouch, c'est HTP Radio.
C'est l'été, viens de poser HTP.
Sors dehors, tu nous entendras tous crier.
Bonjour tout le quartier.
Oh, HTP.
Bien quoi?
HTP création.
Bah dis c'est quoi?
Arrête de m'embrouiller,
c'est chelou. T'as capté le délire?
HTP.
C'était le maître. Moi, on me disait, mon mari me disait, enfin, mes maris me disaient, toi, de toute façon, tu n'es qu'une femme, tais-toi, tu ne sais pas. Tu n'as pas le droit à la parole, c'est moi le maître ici, c'est moi qui dois prendre des décisions. Jamais je n'avais droit à la parole.
Prendre part au mouvement d'action directe non violente pour la paix, au mouvement intermondialiste ensuite, comme au mouvement de lutte contre le réchauffement climatique aujourd'hui, constitue autant de façons de pratiquer la magie. Cet art and craft de la transformation, comme l'appellent Stanger et Pignard, dans l'un de ses rares textes de réflexion et d'intervention politique s'intéressant à ces sorcières néo-païennes, est un art de transformation de soi et du monde, passant notamment par le langage, se pratiquant à plusieurs et au moyen de rituels. Et, en ces temps politiques très sombres de début des années 80, où une partie de la population était littéralement terrorisée par la menace d'une guerre nucléaire et le possible anéantissement de leur monde, les rituels néo-païens, loin de minimiser cette peur et le désespoir qui lui était souvent associé, portent au contraire toute leur attention sur eux. Le premier acte de magie de ces écoféministes païennes fut de créer au sein de ces mobilisations des espaces, des cercles, dans lesquels puisse se dire publiquement cette peur. Le fait même de le faire exister collectivement transforme cette émotion personnelle, incapacitante, en un problème politique, mais donc immédiatement aussi en une source possible d'émancipation collective. C'est ce que veut dire rêver l'obscur. Laissez monter, affronter l'obscur ensemble pour ne pas être dévoré par lui. Toutes les manifestations, blocages, parades, discours de ces années-là sont animés par cette façon nouvelle de faire de la politique et expérimentent la force de ce rituel néo-païen, eux-mêmes très influencés par les pratiques féministes d'empouvoirment et les techniques d'organisation horizontale des anarchistes. Nommer la peur, nommer ce qui rend chacun d'entre nous impuissant, puis nommer ce qui nous rend puissant, est un acte de magie et un acte politique pour les uns. Un acte uniquement politique et féministe pour les autres. Il reste que c'est inventé là, une manière inédite de faire de la politique, répondant à un besoin partagé par tous. De faire prise sur cette chape de plomb.
Donc du coup, en première question, je vais te demander comment tu vis en tant que femme à travers un point de vue du coup politique et social.
Alors, en tant que femme, comment je vis ma vie politique et sociale?
C'est ça.
Bah, disons que je ne peux absolument pas faire l'impasse du fait que je suis une femme. Donc forcément, je suis assignée à des rôles. Et depuis toute jeune, puisque j'ai une mère qui était déjà quand même assez féministe, je me suis toujours un peu interrogée. Je me suis toujours posé la question du pourquoi certaines femmes devaient faire des choses, enfin les femmes devaient faire des choses que les hommes ne faisaient pas. Donc effectivement, j'ai toujours trouvé assez injuste tout ça.
J'ai pris conscience assez tardivement en fait, du fait que être une femme avait une signification politique et même sociale différente. Et de ce que ma condition de femme appelait de ma part, en fait. Ça a été vraiment assez récent, en fait. Je m'étais engagée, notamment du fait beaucoup plus de mes amis, qui étaient déjà engagées militantes dans des associations féministes. Je les ai accompagnées dans cette démarche et j'en fais également partie maintenant. Mais je n'avais absolument pas conscience. Je pense, hein, en tant que femme, en tout cas plus jeune, des ressorts, des déterminants sociaux qui étaient les miens. Et l'impression véritablement que ce phénomène politique et social me dépassait complètement. Alors, j'ai pu penser que une femme pouvait parvenir exactement dans les mêmes conditions, aux mêmes droits, aux mêmes positions, au même statut que les hommes, si elle le veut, avec notamment le système social et éducatif qui est le nôtre. Mais ce qui est faux, de fait.
La bagarre contre les injustices, c'est un souci fort chez les femmes, hein. Mm-hmm. Puisque dans l'organisation des locataires pour la rénovation urbaine ici, vous avez vu qu'il y avait 3/4 de femmes.
Hein. J'ai pu constater, oui.
Et du point de vue politique, on a notre place aux côtés des hommes, on est la moitié du ciel. Moi j'admire beaucoup, Louise Michel, Kara Zetkin, ces femmes qui ont donné de leur vie pour faire changer le monde vers plus de justice sociale et vers un monde qu'on construit et qui s'appelle le communisme, hein, quand même.
C'est pas une question de vivre, en fait, parce que je suis une femme. Donc dès la naissance, on m'a assigné la place d'une femme. C'est plutôt à moi de casser le mythe de cette place qu'on m'a créée, parce qu'en tant que personne issue d'immigration et issue de la classe dite populaire, j'ai déjà commencé avec tellement de bagages sociaux et de bagages politiques et de bagages culturels que avant de trouver ma réelle place, j'ai dû détruire un peu tous ces mythes. Donc je dirais, quelle serait ma place de femme ? Bah, c'est plutôt la casseuse de mythes et de stéréotypes. Je pense que c'est le plus sensé que je pourrais te dire.
Et est-ce que du coup, ça t'engage dans ce que tu fais tous les jours ?
Le fait d'être une femme.
Et d'être féministe aussi.
Oui, bien sûr, ça m'engage, mais je dirais pas que ça soit la seule raison. Parce que pour moi, c'est juste une facette de mon parcours, le fait d'être une femme et d'être une féministe. Je pense que je suis très sensible à l'injustice sociale, que ce soit une injustice qui est tournée vers les femmes ou que ce soit tournée vers des personnes qui sont, disons, des personnes minoritaires et qui viennent des milieux plus défavorisés. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui m'a toujours révoltée.
Moi, sûr, oui. Même ça vient de l'histoire, hein. Bah, j'avais des parents résistants, etc. quoi. Né dans une guerre, etc. Ouais. Donc ça a commencé par l'antiracisme. Pareil avec l'homophobie et le. C'est pareil. Hein.
Est-ce que selon toi, l'espace public du coup reflète notre société genrée ?
Telle qu'elle est conçue par une partie des citoyens, peut-être. En tout cas, la place des femmes n'est certainement pas aussi importante qu'elle devrait l'être dans l'espace public.
Ben, disons que l'espace public reflète évidemment des situations de domination. Et la question du genre est une parmi d'autres dominations. Donc il faut vraiment voir ça de façon croisée, un peu comme on dit aujourd'hui, intersectionnelle. C'est-à-dire, il faut voir quelles positions on assigne les groupes sociaux. Donc, je pense que ce n'est pas seulement une question de genre, mais c'est une question beaucoup plus complexe. Mais c'est sûr que les femmes défavorisées, c'est vrai qu'elles vont cumuler les dominations, ça certainement. Mais il y a des femmes plus favorisées qui vont dominer, par exemple, peuvent dominer certains groupes d'hommes. Donc tout dépend du contexte, tout dépend du lieu, tout dépend de la dynamique. Et bien sûr que l'espace va bien sûr réfléchir les relations sociales, mais elle réfléchit des relations sociales qui sont très complexes, à mon avis. Donc, par exemple, le fait de voir des groupes d'hommes tout seuls dans l'espace public, c'est l'effet de quelque chose qui ne se résume pas à une domination de genre. C'est aussi autre chose. Voilà. C'est aussi parce que peut-être c'est une façon aussi, un mode de vie et un mode aussi économique. Donc, voilà. Et après, on en parlait tout à l'heure. Quand on discutait du fait que certaines femmes elles-mêmes elles vont s'extraire de l'espace public, il y a ça aussi parce que les femmes elles vont malheureusement aussi s'empêcher toutes seules de faire des choses, même là où elles pourraient, où personne les empêche.
Comment vis-tu le fait d'être une femme engagée ?
Pas toujours bien. C'est très violent. C'est beaucoup plus, c'est très violent. Après, c'est certainement une question de personnalité. Hein. C'est très violent au quotidien. Et c'est pas parce que je suis une femme et pas un homme. Je parlais de ma personnalité propre, hein, plutôt sensible. Donc, mais ouais, c'est peut-être compliqué.
Et tu arrives à mettre des mots M-A-U-X du coup sur ces violences, bah, comment tu les définirais ?
Parfois sous forme d'obsession, je me remets en cause, je réfléchis aux réactions que j'ai pu inspirer et à ce qui a pu m'être adressé. Alors oui, certainement peut-être à me poser la question si c'était légitime ou pas. Et ouais, donc c'est plus un travail de remise en cause, ouais, beaucoup.
Et du coup, est-ce que dans ta vie, on t'a déjà fait ressentir ou dit que tu n'arriverais pas forcément à ton but parce que tu étais une femme ?
Premier jour de primaire. Je rigole pas, premier jour de primaire.
En CP du coup ?
En CP, si, j'avais 6 ans. On m'a dit, bah écoute ma chérie, n'espère pas trop parce que rêver, ça ne paye rien. On m'avait dit une phrase dans ce genre-là. N'espère pas. Exactement, c'était ça. N'espère pas trop parce que rêver, ça n'apporte rien. Mot pour mot. Et cette phrase, ben, à chaque rentrée scolaire ou à chaque événement assez important de ma vie, j'y réfléchis en me disant, ben, rêver, ça m'a beaucoup apporté en fait. Rêver, espérer, vouloir créer quelque chose, vouloir apprendre, vouloir donner, c'est grâce à ça en fait que j'ai réussi. Donc ne jamais écouter ta prof de primaire.
On parle du coup souvent de conscience professionnelle. Dans vos expériences, du coup, est-ce que vous avez déjà du coup mis en place ou protesté contre des inégalités liées à votre place de femme au travail ?
Ça, on n'a pas arrêté, hein. On n'a pas arrêté, et puis depuis le petit chef jusqu'au grand, hein. C'est vrai qu'à un moment donné, j'aurais pu choisir de passer de l'autre côté de la barrière au niveau du boulot, j'ai refusé. Je ne voulais pas être cadre dans mon boulot, mm-hmm. parce que je ne voulais pas passer de la barrière là.
D'accord.
Donc c'est un choix de société.
Ok.
Mais je ne regrette pas, hein, même si on gagne moins.
Et finalement, qu'est-ce que c'est pour toi être une femme au sens politique ?
Au sens politique ? Encore aujourd'hui, être une femme, c'est politique. Ça n'est pas lié qu'à des actions publiques, politiques, au sens, on va dire, plus classique du terme, au sens où tout le monde l'entendrait faire partie d'une campagne. Non, c'est ni même dans une association qu'il serait, militante ou politique. C'est être une femme et exister pleinement dans sa condition de femme. C'est ça qui est difficile, qu'il faut assumer, exagérément assumer, je dirais même. Ce qui ne veut pas dire en jouer, enfin après, voilà.
Mais et pourquoi pas les... d'ailleurs.
Et pourquoi pas, oui. C'est s'accepter, c'est prendre conscience aussi de ce qui s'est joué dans les années 60-70, les mouvements féministes. Parce qu'elles se sont battues énormément pour nous, pour une grande partie des droits qui sont les nôtres aujourd'hui. Et une femme politique, c'est une femme qui est dans un collectif. Retrouver le collectif de femmes. Ouais.
Essayer de comprendre que cette fait d'être femme va t'influencer quelque part toute ta vie. Et donc forcément, ça doit te faire réfléchir à ta position dans toutes les situations dans lesquelles tu es. Et à la fois avec tes relations familiale, hein, y compris avec tes enfants, à la fois dans tes relations de travail. Je pense que c'est très important de toujours avoir clair en tête que tu es une femme. Voilà, dans toutes les situations dans lesquelles tu peux être, je ne peux plus voir la Fred.
Voir la place qu'a eu ta mère et tout faire dans sa vie pour que ta fille ait cette place-là. C'est pour moi, c'est ça une femme politique. Espérer que les jeunes filles qui seront là dans les générations à venir n'aient pas à vivre la même oppression, le même sarcasme masculin que nous on est en train de vivre. C'est lui permettre de pouvoir rêver, de pouvoir faire ce qu'elle veut, c'est lui permettre de choisir le métier qu'elle souhaite, c'est lui permettre de rêver sans que quelqu'un lui dise le rêve n'est qu'une forme de sagesse mentale que tu n'acquériras jamais en fait. C'est ça pour moi être une femme politique. Et c'est pas simplement un effet de mode ou une histoire de « Ah, nani, nana, maintenant qu'il y a les réseaux sociaux, on vous voit, on vous parle. » Non, c'est juste une histoire d'exposition. Et un espoir de savoir que mes futurs enfants n'auront pas à marcher vite à 23h parce qu'elles sont dans une petite rue. Plein des histoires comme ça, ça tourne souvent autour du sexe, parce que nous, on ne voit que comme des sexes, en fait. On nous a oubliés en tant qu'êtres humains et femmes, et être d'espoir, et être de sagesse, et être de conscience. On est devenus tout simplement des sexes. Parce qu'être un objet de pensée, c'est inaccessible. On ne peut pas toucher cet objet-là. Mais pourtant, c'est ce qui nous réside, et ce qui nous anime, et ce qui nous permet de nous construire.
C'est fondamental qu'on comprenne notre place là-dedans et qu'on avance. Et... Oui, non. La première chose, c'est qu'il ne faut pas rester tout seul. Ça, c'est la première chose. La bourgeoisie, elle n'est pas folle. Hein. Et elle se donne des outils. Et ces outils, ça va de la presse en passant par la constitution, l'État, etc. La colère est grande en ce moment. Partout sur la planète. Et c'est pour ça que la dimension internationale dans une lutte pour plus de justice sociale, elle est fondamentale. Hein.
Invisibles, elles ouvrent la ville. En janvier 2018, après 45 jours de grève, des femmes racisées, travaillant à la gare du Nord, remportent victoire contre leur employeur, la compagnie de nettoyage Honnête, qui sous-traite pour la SNCF. Ces ouvrières, qui font partie d'une force de travail racisée et en grande majorité féminine, exerçant des métiers sous-qualifiés et donc sous-payés, travaillent au péril de leur santé, le plus souvent à temps partiel, à l'aube ou le soir, quand les bureaux, hôpitaux, universités, centres commerciaux, aéroports et gares se sont vidés, et, dans les chambres d'hôtel, quand les clients et les clientes sont partis. Nettoyer le monde, des milliards de femmes s'en chargent. Chaque jour, inlassablement. Sans leur travail, des millions d'employés et agents du capital, de l'État, de l'armée, des institutions culturelles, artistiques, scientifiques, ne pourraient pas occuper leurs bureaux, manger dans leur cantine, tenir leurs réunions, prendre leurs décisions dans des espaces propres ou corbeilles à papier, tables, chaises, fauteuils, sols, toilettes, restaurants ont été nettoyés et mis à leur disposition. Ce travail indispensable au fonctionnement de toute société doit rester invisible. Il ne faut pas que nous soyons conscientes et conscients que le monde où nous circulons est nettoyé par des femmes racisées et surexploitées. D'une part, ce travail est considéré comme relevant de ce que les femmes doivent accomplir, sans se plaindre, depuis des siècles. Le travail féminin de soins et de nettoyage constitue un travail gratuit. D'autre part, le capitalisme fabrique inévitablement du travail invisible et des vies jetables. L'industrie du nettoyage est une industrie dangereuse pour la santé, partout et pour toutes celles et tous ceux qui travaillent. Sur ces vies précarisées, usantes pour le corps, ces mises en danger reposent celles, confortables, des classes moyennes et le monde des puissants. La victoire des ouvrières de la gare du Nord est significative, parce qu'elle met en lumière l'existence d'une industrie où se combinent racialisation, féminisation, exploitation, mise en danger de la santé, invisibilité, sous-qualification, bas salaire, violence et harcèlement sexuel et sexiste. Pourtant, en janvier 2018, ce qui fait la première page des médias en France et ailleurs provoque débats et controverses, pétitions et contre-pétitions, est la tribune signée par un collectif de 100 femmes, dont Catherine Millet, Ingrid Cavan et Catherine Deneuve, dénonçant la haine des hommes au sein du féminisme. Les signataires fustigent les campagnes Balance ton porc et MeToo, à l'occasion desquelles des femmes dénoncent des hommes qui les ont sexuellement agressées, les accusant de constituer une campagne de délation de justice expéditive, puisque des hommes auraient été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, etc. Alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Les signataires fustigent les campagnes Balance ton porc et MeToo, à l'occasion desquelles des femmes dénoncent des hommes qui les ont sexuellement harcelés, les accusant de constituer une campagne de délation, de justice expéditive, puisque des hommes auraient été sanctionnés dans l'exercice de leur métier, contraints à la démission, alors qu'ils n'ont eu pour seul tort que d'avoir touché un genou, tenté de voler un baiser, parlé de choses intimes lors d'un dîner professionnel, ou d'avoir envoyé des messages à connotation sexuelle à une femme chez qui l'attirance n'était pas réciproque. Elles évoquent une vague purificatoire. Que cette tribune ait retenu l'attention n'est pas surprenant. La vie confortable des femmes de la bourgeoisie dans le monde est possible, parce que des millions de femmes racisées et exploitées entretiennent ce confort en fabriquant leurs vêtements, en nettoyant leurs maisons et leurs bureaux où elles travaillent, en s'occupant de leurs enfants, en prenant soin des besoins sexuels de leurs maris, frères, compagnons. Elles ont dès lors tout le loisir de discuter du bien fondé ou pas d'être importunées dans le métro ou d'aspirer à devenir dirigeantes d'une grande entreprise. Certes, des hommes profitent aussi de la division Nord-Sud, et d'autres hommes sont mis dans la situation de les entretenir, mais si j'insiste sur le rôle des femmes du Sud global dans cette organisation du monde, c'est pour souligner d'autant plus son caractère révolutionnaire dans la critique du capitalisme racial et de l'hétéropatriarcat. La vie confortable des femmes de la bourgeoisie dans le monde est possible, parce que des millions de femmes racisées et exploitées entretiennent ce confort en fabriquant leurs vêtements, en nettoyant leurs maisons et leurs bureaux où elles travaillent, en s'occupant de leurs enfants, en prenant soin des besoins sexuels de leurs maris, frères, compagnons. Elles ont dès lors tout le loisir de discuter du bien fondé ou pas d'être importunées dans le métro ou d'aspirer à devenir dirigeantes d'une grande entreprise. Certes, des hommes profitent aussi de la division Nord-Sud, et d'autres hommes sont mis dans la situation de les entretenir, mais si j'insiste sur le rôle des femmes du Sud global dans cette organisation du monde, c'est pour souligner d'autant plus son caractère révolutionnaire dans la critique du capitalisme racial et de l'hétéropatriarcat.
Bah ouais, c'est encore chill. Il ne voit pas mon art. Résume ma musique à mon sexe. Y'a trop de machos, des sans-couilles, des porcs, des prétextes. Chaque attaque sexiste, commentaire misogyne me rend plus forte. Ma sœur, lève-toi et ne reste pas témoin docile devant la porte.
Arrête.
HTP Radio, c'est fini pour aujourd'hui.
Tchuss, salut.
Retrouve-nous sur htpradio.org. Allez, ciao.
Bismillah.
À bientôt.
Ah. HTP.
A plus dans le bus, ma puce.